Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Alors aujourd'hui, comment dois-je présenter cette émission ? Parce que on pourrait passer tous les poncifs, à vrai dire. Mais on a bien envie d'aller voir Madeleine quand même. Un petit clin d'œil pour ceux qui suivront ma pensée tortueuse, puisque nous partageons... Alors, c'est pas un pavé, mais enfin, ça fait quand même 240 pages, ce bouquin. 240 pages qui sont comme un coffre au trésor. Je crois qu'on peut dire ça. Les contes de Noël du journal Spirou de 1955 à 1969. Alors, en 55, nous n'étions pas nés. En 69, si. C'est une parution, évidemment, Dupuis, qui rassemble tous les numéros spéciaux pour Noël entre ces deux dates. Et moi, je dois dire, alors, témoigner entre guillemets de notre vécu, que j'ai retrouvé ces numéros spéciaux, ou les recueils Spirou, plus particulièrement, à chaque fois que je pouvais, dans la famille. Et je me souviens m'être retrouvé dans des petits coins de maison, ici ou là, à lire ça avec passion. Et en ouvrant cet ouvrage, Contes de Noël du journal Spirou 1955-1969, les sensations reviennent. Est-ce qu'il en est de même pour vous, Thierry ?
Oui, j'avoue humblement qu'en feuilletant cet ouvrage puis en le lisant, je me suis surpris souvent, et au fil des pages, à me dire « bon sang, mais je m'en souviens », à me replacer dans le contexte qui m'avait vu les lire pour la première fois, et puis être admiratif de cette somme, parce que c'est représentatif de l'entreprise patrimoniale que mènent Dupuis, Dargaud, Le Lombard, depuis quelques années, pour magnifier ce fonds de catalogue, ce qu'on appelle, pour aller vite, mais c'est pas absolument faux, l'âge d'or de la BD franco-belge, pour le magnifier jusque dans ses aspects les moins connus ou les moins immédiats à l'esprit. Et c'est vrai que les contes de Noël, c'est passionnant de lire la présentation à ce sujet. C'est représentatif de l'esprit du journal de Spirou et de l'évolution de cet esprit. Parce que très tôt, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des séquences dans le journal qui sont consacrées à la période de Noël. Donc on voit les stars du journal, bon, en premier lieu Jigé par exemple, illustrer des scènes emblématiques de Noël. Mais ça reste des séquences. Mais le succès est tel, et puis la volonté de M. Dupuis, un éditeur catholique, alors je dirais paternaliste, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tient à faire partager des valeurs de fraternité et de bienveillance, qui tient à ce que son magazine soit le vecteur de ses vertus. Et il embauche pour cela les dessinateurs qui sont tout à fait partants pour, au fil des années, réaliser ce qui va devenir des numéros spéciaux de Noël, parce que le succès, je le disais, est immédiat, et pratiquer ces numéros de Noël comme des espaces de liberté. C'est-à-dire qu'on va retrouver les personnages vedettes de ces dessinateurs, de nouveaux personnages dans le contexte, qui font une sorte de pas de côté par rapport à l'univers habituel, en exaltant certaines vertus. Alors, je précise dès le départ qu'il n'y a rien d'ironique dans mon propos. Le mot « vertu », c'est un mot d'une grande noblesse. Et puis surtout, c'est fait d'une façon tout à fait sincère et joyeuse. Et quand on met une somme de talent au service d'une si noble cause, on ne peut que se réjouir. On soit assemblé dans un si bel ouvrage toutes ces contributions.
C'est la première fois.
C'est la première fois. On ne peut que s'en réjouir parce que, comme je le disais en début de cette émission, on voit une évolution très nette qui correspond à l'évolution alors, du lectorat, de l'air du temps et puis de l'esprit de ces dessinateurs.
Voilà, alors cette évolution, elle est assez étonnante d'ailleurs parce que, en fait, on a l'impression qu'il y a du plaisir, de la contrainte, un besoin de liberté et que ça s'exprime au travers de toutes ces pages.
Oui, parce que, comme on l'admettait, c'était un espace de liberté. Liberté par rapport à un rythme de travail terriblement soutenu, parce que c'était une existence de galérien pour ces garçons qui travaillaient du matin au soir, enchaînés à leur planche à dessin, enchaînés par des carcans narratifs. L'exemple le plus fameux, c'est quand même Franquin qui était obligé d'habiller Spirou d'un uniforme de groom du début à la fin, alors qu'au bout d'un moment, ça devenait grotesque, et puis il y avait des contraintes scénaristiques, enfin bref, tout ça lui pesait de plus en plus. Ces épisodes de Noël, c'est l'occasion de littéralement de s'amuser au début, parce que même si on n'est plus dans l'illustration digne de l'image pieuse, au fil des années, la thématique de Noël peut devenir contraignante. Ça va être le cas, et on parlait de l'air du temps, les mœurs se changent, le côté naïf disparaît. Surtout, on voit émerger des nouveaux auteurs, on voit émerger des nouveaux personnages. Un exemple flagrant, c'est des personnages féminins. Yoko Tsuno, Natacha, comme Valérian Laureline, c'est des héroïnes inenvisageables dans les années 40-50. On voit apparaître un humour un petit peu plus grinçant, un peu plus piquant, sous la plume de gens dont on aurait imaginé qu'ils seraient les derniers à se, entre guillemets, se rebeller. L'éditeur prend l'exemple d'une planche de Roba. Roba, dessinateur de Boulébile. On imagine mal quelque chose de moins subversif que Boulébile. On voit les personnages quêter pour Noël et puis, en fait, en guise de monnaie, ils reçoivent des vieilles chaussures, des boîtes de conserve. Et c'est le chien, en fait, qui, en hurlant à mort, va trouver de l'argent. C'est déjà une vision un peu différente, un peu grinçante de Noël par rapport aux premières planches qu'on voit illustrées dans les années 40 et 50. C'est ça qui rend cet album absolument passionnant. Avec un petit bémol, mais un tout petit, c'est que l'état de conservation des films qui permettent de reproduire, d'imprimer les planches n'est pas toujours exceptionnel.
Oui, mais il y a eu du boulot assurément hein, pour reproduire pas. Tout ça. Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de bandes dessinées, évidemment, mais aussi de l'illustration simple, entre guillemets, et puis de vrais contes, là, transmis.
L'intitulé de cet album, ce bel et gros album, Contes de Noël, n'est pas trompeur, parce qu'on a des planches de bande dessinée, des récits courts, mais sur plusieurs planches, on a des planches complètes, mais on a aussi des illustrations qui servaient de couverture aux numéros spéciaux ou de hors-texte, et on a des vrais contes, et alors, pas seulement des contes traditionnels, mais des contes écrits par des scénaristes de bande dessinée, je pense. Un me vient à l'esprit tout de suite, parce que c'est le dernier que j'ai lu. C'est un conte écrit par Rosie, qui était le scénariste de Tiff et Tondu.
Alors, on ne fait pas toute la liste des auteurs que l'on trouve, évidemment. Hein,
parce que ce sera un casting, un all-star cast, comme on dit, en bon franglais.
Moi, je pense aussi au Tunique Bleue, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps.
Hein. Oui, on c'est voit l'occasion le tout de retrouver Salvirius. On évoquait la mort prématurée du dessinateur d'origine des Tuniques Bleues. C'est une occasion très émouvante de retrouver le trait de Salvirius. Oui.
Oui, d'autant plus qu'on parlait du trait des différents dessinateurs qui se sont succédés, celui de Salvirius.
Dieu sait s'il était différent.
Oui, très particulier. Avec de vrais gros nez et des personnages très ronds d'ailleurs aussi. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans le dessin, on voit des dessins qui pourraient paraître très surannés. Et aujourd'hui, il y a des dessinateurs qui s'emparent de ce style.
Oui, vous faisiez une remarque très juste à propos de planches de Haussmann. Alors Haussmann, c'est un des trésors les mieux cachés de la bande dessinée franco-belge. C'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de succès, mais un succès d'estime, et puis un succès auprès de ses collègues. Il a un univers très particulier. On le retrouve au fil de quelques pages dans cet album. C'est magnifique, c'est très beau. C'est à la fois effectivement très, très suranné. On ne dessine plus comme ça, et pourtant intemporel. Et quelque part... cette approche, je ne dis pas le dessin proprement dit, mais cette approche, cet œil, cette main, on les retrouve aujourd'hui, effectivement.
Thierry, vous êtes souvenu du Old Nick aussi ?
De Remacle, le vieux Nick et Barbe Noire, une série de piraterie qui faisait ma joie.
Délirante.
Humoristique, déjantée et introuvable, je crois. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais les derniers albums que j'ai pu avoir entre les mains, c'était il y a 50 ans. Mon Dieu, comme le temps passe.
Alors, chers auditeurs, je crois que vous l'avez compris. Avec tout ce qu'on vient de dire là, ce bouquin, c'est le piège. Le piège duquel on ne peut échapper si jamais on a déjà lu ces planches, si on a envie de se replonger dans l'histoire de la bande dessinée, parce que c'est presque l'histoire, là, quand même, eh bien, c'est pareil. On vous conseille vivement d'ouvrir ces contes de Noël, c'est la période, hein, les contes de Noël du journal Spirou, même s'ils se déroulent, en tout cas, ils ont été dessinés, ces contes, de 1955 à 1969. Vous aurez, je pense, toujours autant de plaisir à notre époque, au XXIe siècle, à les lire. C'est une parution Dupuis. On vous la conseille chaleureusement. Mettez-vous dans un petit coin, justement, au chaud. Laissez le froid dehors. Plongez-vous là-dedans et profitez-en. Merci Thierry. À bientôt.